Breaking news, Laurent Rossi quitte la présidence d'Alpine. Pourquoi ce départ? Réaction à chaud de nos fans du paddock. Retour sur le Grand Prix de Silverstone et le miracle McLaren qui réalise les progrès les plus spectaculaires de la grille. Analyse d'un retour incroyable. Autre comeback, celui de Daniel Ricciardo chez AlphaTauri. Est-ce un premier pas pour le préparer à shipper le volant de Perez chez Red Bull ou au contraire un cadeau empoisonné? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez, on refait la F1, les fans du paddock, déjà le 7e numéro, vous le savez, les fans du paddock, on refait la F1, c'est chaque jeudi avant un Grand Prix. Merci infiniment pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant sur à notre chaîne YouTube et surtout, n'hésitez pas à liker, un cadre exceptionnel. Nous ne sommes pas dans le studio à Paris, rue La Boétie, dans le 8e arrondissement, mais nous sommes à Ajaccio, dans le golfe d'Ajaccio. Bienvenue ici pour cette émission exceptionnelle tournée en Corse. Merci à notre partenaire Air Corsica de nous avoir accueillis à Paris pour mettre le cap sur Ajaccio à bord de leur magnifique Airbus A320neo. Merci pour leur accueil chaleureux. Seulement 1h30 de Paris, si vous voulez venir passer un petit week-end, une petite semaine, c'est vraiment la place to be. Et un immense merci au Radisson Blue d'Ajaccio de nous accueillir dans ce cadre enchanteur dans le golfe d'Ajaccio, sur la rive sud. Un magnifique hôtel avec la vue sur la mer à couper le souffle. Puisqu'un hôtel, c'est un véritable resort qui offre plein d'activités pour les familles. Vous avez la piscine, spa, vous avez la plage d'Agosta juste derrière, hein, deux pas de Portillo. C'est aussi un centre de conférences si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez réaliser des séminaires. Avec chroniqueur, pardonnez-moi, à côté, avec moi, sur le plateau de la terrasse du Radisson Blu, monsieur Laurent Pantanache. On est content de pouvoir faire des émissions dans notre pays d'origine, mon cher Laurent.
C'est vrai, on est très content. Le temps s'y prête.
Alors, tu es un fan de Lewis Hamilton, on te surnomme le polémiste de la F1. Et donc, tu auras la difficulté de soutenir Mercedes, qui en a bien besoin en ce moment. En duplex, l'édile du village Bastia, on le surnomme Pépone, et fan de Ferrari, monsieur Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice.
Salut Olivier.
Et à tes côtés, celui qui prie chaque semaine pour que Ferrari gagne un Grand Prix, on le surnomme Don Camillo, un autre grand fan qui met la messe édite, ou pas, on verra voir, pour Ferrari. Pardonnez-moi, j'ai un trou, mais ça me revient.
Alain Di Duca.
Alain Di Duca,
celui-là. Don Camillo.
Hein. Bon. Et oui, voilà.
Allez, quant à moi,
pour une fois, j'ai pu afficher les couleurs. Je suis un fan absolu de Fernando Alonso qui est chez Aston Martin, on va en parler. Car il y a une breaking news les amis, on embrasse Eric Bouilly, on doit faire l'émission ensemble, mais voilà, un peu compliqué de la faire cette semaine ensemble, on l'embrasse très fort, on se retrouve après les vacances. Et on enchaîne avec la breaking news du jour ou de la semaine, le départ de Laurent Rossi de la direction de Renault. Laurent Rossi quitte Alpine après 2 ans et demi passés à la tête d'Alpine, aussi bien la marque que l'écurie F1. Il quitte l'entité, un petit communiqué de presse qui est passé, qui a annoncé le départ, vraiment surprise. Je crois que j'ai oublié une chose, Laurent, on n'a pas fait la petite virgule sponsor. Allez, vas-y, je t'en prie.
Non, mais très rapidement, parce qu'on parle de voiture, on parle de voiture et ce qu'on disait, c'était que on a un de nos partenaires qui s'appelle Eternel, les bracelets. Et en fait, ils ont un bracelet qui s'appelle Rally. On se disait que pour une émission autour du sport, c'était sympa de parler de ce bracelet parce que, en fait, il est inspiré des branches, des volants de voitures de course d'époque et des gants. Et des gants avec des trous.
Avec les trous.
Et donc, en fait, il y a une promo pour nos auditeurs. C'est que s'ils vont sur le site eternel-bracelet.com et qu'ils tapent ORLM Rally, ils ont 20% de réduction sur ce bracelet qui est somme toute magnifique et pas très cher au regard du prix des bracelets Apple.
Ouais, donc c'est des Apple Watch ou Apple Watch.
Et de très bonnes factions.
C'est l'objet qu'il vous faut.
Bon, alors, Laurent Rossi alors.
Revenons à l'actu, Laurent Rosse qui donc quitte l'écurie Alpine, il est remplacé, enfin l'écurie, le groupe Alpine, il est remplacé par Philippe Krief. Qu'est-ce qu'on sait de ce personnage qui n'est pas inconnu, mais qui n'est pas non plus une figure de la Formule 1, hein, Laurent?
Non, alors c'est intéressant parce que nous, on le juge sous l'angle de la Formule 1, mais il n'est pas nommé pour gérer la Formule 1, il est nommé pour gérer Alpine. Donc, il se retrouve CEO d'Alpine.
PDG.
Pardon, excusez-moi. Donc, il se retrouve PDG d'Alpine. Et en fait, il a quand même un lourd passé dans l'univers automobile, puisqu'il a travaillé...
Sérieux passé.
Oui, il a travaillé chez Ferrari, il a travaillé chez Maserati, donc dans la branche italienne de l'automobile. Donc, a priori... Alfa Romeo, donc voilà, il a quand même un parcours dans cet univers-là.
Diplômé de l'École nationale supérieure de la technique avancée, ancien de chez Michelin du groupe Fiat, et il a rejoint en février 2023 la direction de l'ingénierie de la performance produit de la marque, donc effectivement la marque et non pas l'écurie, mais il va donc aussi chapeauter l'écurie. Comment, messieurs, allez, on va se tourner vers nos amis en duplex de Paris et du village Baïsia, comment est-ce que vous êtes surpris par ce départ? Est-ce que quelque part, à votre avis, c'est des supputations, mais on a quand même quelques pistes, Laurent Rosse, il paye un début de saison décevant, une mi-saison décevante d'Alpine cette année?
Olivier, je ne sais pas si on a envie de répondre à ta question, parce que tous ceux qui nous regardent ont bien vu qu'il y avait deux camps quand même dans cette émission. Il y a ceux qui ont le droit d'aller en Corse avec toi, oui, et ceux qui restent sur Paris. Et donc on voit toute l'objectivité de nouveau, hein, quand même, d'un journaliste qui embarque avec lui, voilà, les écuries qu'il aime bien, les gens qu'il aime bien, et nous on reste à Paris. Voilà.
C'est pas donc, vrai, il m'a mis dans un fauteuil rouge, regarde,
regarde,
il est rouge.
Non, mais franchement, voilà, donc, non, mais, voilà, donc j'espère que tout le monde a
bien remarqué.
Ne sois
pas jaloux comme ça, mais non, voilà. Mais écoute, on vous a proposé de venir, mais voilà... Vous êtes trop occupé. Ah bon, nous, on a des métiers qui nous permettent de pouvoir faire des émissions à distance. C'est notre métier,
voilà,
de faire des émissions.
Donc, voilà. Donc, alors, Laurent, on va faire l'émission. Qu'est-ce qu'on pense? On va juste démerder tous les deux.
Nous, on va aller manger. Ouais.
Alors, votre sentiment?
Non, mais alors déjà, moi, la question, voilà, effectivement, que je me posais, c'est pourquoi il était débarqué, et est-ce effectivement pour les résultats d'Alpine? Parce que concrètement, je n'arrive pas à comprendre quel est le rôle aujourd'hui d'un président, directeur général, tel que celui qui est assumé par Alpine et qui va être assumé par son remplaçant. Est-ce qu'il a un rôle prépondérant dans la gestion même d'une écurie, ou est-ce que finalement c'est le patron d'une industrie automobile avec différentes marques? Voilà, donc on a du mal à comprendre effectivement, même si lui, toutefois, on le sentait extrêmement impliqué, souhaitant faire partie finalement de cette aventure F1, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs auprès des autres dirigeants des autres marques. On ne voit pas le patron de Mercedes, président de Mercedes, enfin, je ne crois pas, je demanderai peut-être à Laurent, je me trompe peut-être, mais est-ce qu'il est aussi présent que le patron d'Alpine sur les différents circuits? Voilà, donc, j'ai du mal, moi, à bien comprendre quel est le rôle d'un président d'une entreprise, en tout cas d'une marque, d'un constructeur.
Donc, Camille, tu es assez d'accord avec ça? On ne peut pas diriger une marque et diriger une écurie des fins, c'est deux métiers différents et deux métiers très prenants. Hein.
Même si le directeur de la marque peut être au-dessus du responsable du team, hein, ça c'est autre chose. Mais
on ne peut pas faire la gestion quotidienne. Alors il ne quitte pas le groupe Renault, hein, par contre.
Ouais, est-ce que son départ est lié aux résultats Formule 1 ou des résultats de façon plus générale d'Alpine? Voilà. Je ne sais pas quels sont les bons résultats entre ces deux activités-là.
Laurent, tu en as parlé avec Eric avant le début de cette émission, parce qu'Eric ne pouvait pas être avec nous.
Eric disait que c'était un gros
Eric
travail. Eric Bouillet disait que Laurent est un gros travailleur, vraiment un truc, mais un peu trop passionné peut-être de F1. Et le problème, c'est qu'il était à la tête de la marque Alpine et de l'écurie F1, mais de la marque Alpine. Et peut-être, c'est le risque, il disait, c'est un peu le risque des gens qui se grillent avec truc. Donc, il ne portait pas du tout ce jugement, hein, il portait un jugement général. Il dit, tu risques de te faire happer à un moment donné. Il me dit, je ne sais pas du tout si c'est ce qui s'est passé pour lui ou pas, mais certains, d'aucuns le disent.
Ouais, en clair, la devise d'Éric Bouillet, c'est de dire on ne peut pas diriger une écurie et être fan de F1. C'est pas possible. Voilà. On ne peut pas faire de sentiment, en clair. Pourtant, Laurent Rossi s'était fait remarquer en tapant durement du poing sur la table lors d'une interview il y a quelques mois, lors du Grand Prix de Miami, sur nos confrères de Canal+. On n'avait pas trop compris cette véhémence, cet énervement dès le début de la saison. Ça avait été mal vécu en interne. Ils s'en étaient pris très durement, notamment à Otmar Schweinhauser, hein, qui était le manager de l'écurie au quotidien. Il y en a un quand même de manager au quotidien, c'est lui. Ah oui. On le pensait du coup sur la sellette, Otmar, et puis finalement, on ne s'attendait pas à ce que Laurent Rossi...
Peut-être.
Ouais.
C'est peut-être l'arroseur arrosé. Hein.
Ouais. C'est-à-dire que de laver le linge sale en public, je pense pas que ça soit une... ça soit très bien vécu en interne chez Renault, les amis, chez Alpine, Laurent ou en duplex.
Effectivement, c'est un peu l'arroseur arrosé hein, qui en plus, effectivement, face aux caméras, sur du live, je crois que c'était en direct sur Canal, a exprimé son mécontentement et a exprimé également que bah, si ça continuait comme ça, il allait se séparer du team manager quand même d'Alpine. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il a adopté le bon ton et les bons mots sans aucun recul finalement face à tous ces auditeurs. Donc c'est quand même un personnage public, c'est très médiatisé. Je ne suis pas sûr qu'on lave son linge comme ça en public. Et ouais. Voilà, donc il y a quand même une certaine mesure, une retenue à avoir, je pense.
Très bien. Juste un petit mot avec toi, donc Camille. Aussi, la fin de saison a été assez catastrophique et de Alpine l'année dernière, avec la perte de Fernando Alonso. Quand on voit qu'ils font les résultats qu'ils font aujourd'hui chez Aston Martin, ça doit créer de la rancœur. Le départ de Piastri, qui a super bien marché au Grand Prix d'Angleterre, on va en parler dans un instant. Ça aussi, est-ce que c'est pas à son discrédit?
Écoute, moi je vais faire simple. D'abord, Rossi, Di Meo et Renault, c'est égal Poutine, Prigogine, Russie. C'est que tout ce qu'on peut dire, c'est des conjectures. On ne sait rien de ce qui s'est passé derrière, donc on peut partir dans tous les sens. Maintenant, il y a un truc que je rajoute par rapport à l'énervement qu'il a eu sur les résultats. C'est aussi le fait qu'il y a eu 200 millions qui sont rentrés dans les caisses. Peut-être que Alpine devrait être en meilleur état pour Di Meo que Alpine est aujourd'hui. Et qu'on fait une prise de guerre qu'on est allé chercher chez FCA, qui est Krief, et qui est quelqu'un qui est plutôt automobile que course automobile. Ouais. Voilà, ce sont des conjectures.
Alors, 200 millions, tu fais référence effectivement à l'émission qu'on a fait il y a quelques semaines où Alpine a levé 200 millions d'euros et essentiellement cet argent allait servir à rembourser, c'est nouveau, j'ai inventé des mots, à rembourser Renault. Ça montre qu'il y a quand même la situation financière étendue. En tout cas, Laurent Rossi ne quitte pas le giron de Renault, Laurent.
Non, on lui a retiré le titre de CEO d'Alpine, c'est-à-dire le constructeur automobile, hein, ou la marque, parce que c'est une filiale de Renault. Et donc, de fait, il a perdu aussi la direction de la partie visible, F1. Où on le voyait, qui était la Formule 1. Et nous, on parle de Formule 1, donc on voit ça. Il est en charge des projets spéciaux. Bon, moi, j'ai été patron des projets spéciaux. Parfois, c'est un peu un terme un peu subtil, tu vois, pour être soit une porte de sortie, soit développer des nouveaux trucs. Ouais. Oui, alors après, il a quand même un passé autour de l'univers autonomie, de l'accompagnement, du management, de la transformation. Donc, il peut très bien être en charge d'un programme de transformation. Et Renault, une boîte où on peut faire la transformation à tout niveau. Maintenant, je suis, excite la dimension F1.
Wait and see this weekend, donc au Grand Prix de Hongrie, on en reviendra dans un instant. On retourne d'ores et déjà sur le
Tu as dit une info tout à l'heure, tu as dit breaking news, mais ça n'a pas du tout été présenté comme ça par Formula One. Hein. C'est un tout petit, même sur le site Formula One, il y a une petite info, c'est le truc vraiment minimisé au possible. Quoi.
Allez, retour sur le débrief du Grand Prix d'Angleterre à Silverstone et le miracle McLaren. Alors, avant de parler du miracle McLaren, un mot quand même sur la nouvelle victoire, la huitième déjà de la saison, pas d'affilée heureusement, mais c'est pas loin, de Verstappen, hein, qui porte donc à 8 son score de victoire cette saison. Le nombre de victoires depuis le début de la saison, c'est dingue, 8, j'en reviens pas. Donc, on va pas trop s'étendre sur le sujet, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, tant la domination de Red Bull est phénoménale. Mais ce que moi, j'ai retenu de ce Grand Prix, c'est le retour fracassant de McLaren, de l'écurie, au premier plan, avec un magnifique... Lando Norris qui a signé la seconde place. L'écurie McLaren leur a créé la surprise. On n'aurait jamais imaginé qu'en quelques semaines, ils auraient dépassé Ferrari, Alpine, bien sûr, qui était leur concurrent direct, Mercedes et Aston Martin.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu 10 courses. Sur les 9 premières courses, ils ont marqué 29 points. Et sur la dixième, alors qui est une course un peu spéciale, hein, parce qu'il y avait le sprint au milieu, il y avait des points à prendre au sprint, mais ils ont marqué 30 points. Donc ils ont marqué plus de points en une course que sur les 9 précédentes. Et ils ont surtout mis à mal Alpine, hein, donc je ne sais pas si ça peut avoir un impact aussi dans la décision, mais oui. Alpine qui s'espérait en 3e, 4e force du plateau.
Et champion, hein, du monde à l'échelle de quelques années.
De 100 courses, ouais. Et là, et bien, d'un coup, ils se retrouvent, tu vois, je dirais, déclassés, quoi.
Donc Camille, au Pépon, comment expliquer de tels progrès alors que Ferrari, mais aussi Mercedes, et on voit que Aston Martin aussi plafonne un petit peu, mais ils ont moins de moyens. Comment ils ont pu parvenir à combler un tel retard alors qu'on voit les difficultés de Ferrari et de Mercedes pour gagner quelques dixièmes, et de l'autre côté, Red Bull qui continue de progresser.
C'est vrai que c'est assez étonnant, et en même temps, ça permet aux autres de garder espoir. Et en se disant, bah tiens, ils ont fait les maudits, on n'a pas besoin d'attendre la prochaine saison. Voilà, ils ont... voilà, donc, et ce qui était bien aussi, c'est que même si effectivement Max a encore gagné la course, il ne leur reste pas moins que ça a été plus difficile, en tout cas à certains moments, que sur les précédentes courses, avec un Norris déjà qui, au départ, passe devant Max. Donc ça a redonné un petit peu de l'intérêt à cette course qui, ensuite, a été quand même assez ennuyeuse. Donc, on était contents quand même de voir cette écurie essayer en tout cas de combattre pour les premières places. Et d'ailleurs, on aurait pu avoir deuxième place, troisième place pour McLaren s'il n'y avait pas eu le safety car. Voilà, on avait quand même un résultat assez exceptionnel. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ben voilà, ça mettait en valeur quand même deux pilotes. Alors, Norris, qu'on connaissait déjà, l'autre un petit peu moins, même si il avait déjà une réputation quand même d'être un très bon pilote, mais les deux l'ont montré. Et même Piastri, à un moment donné, était quasiment sur le point de doubler Norris, si je me souviens bien, en début de course. Donc, voilà, ça a donné quand même un nouvel élan et même de l'espoir, donc de nouveau, à tous les autres, en se disant, ben, voilà, on peut faire des modifs, et ces modifs, elles peuvent être concluantes positivement sur des circuits. Voilà. Donc, on parlera par la suite sûrement de Ferrari, hein, mais je ne vais pas y venir tout de suite.
Non, on ne va pas en parler de Ferrari, quasiment non. Pas. Il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement.
Non, c'est frustrant pour nous, bien sûr. C'est très frustrant pour nous.
Alain, ton sentiment, moi, oui. Je n'ai pas souvenir de fan de F1 d'avoir vu une écurie en deux Grands Prix passer quasiment à la dernière ligne à la première.
Historiquement, oui, c'est le truc, c'est ça. C'est un message d'espoir pour tout le monde.
C'est ça.
En sachant que ce message d'espoir correspond aussi au drame de Checo, parce que là, je crois que moralement, il est laminé. Et que Red Bull ne fait rien pour le rattraper. Hein, ouais. Donc mais c'est clair, oui, mais ça fait plaisir de voir qu'il peut y avoir des inversions de tendance comme celle-là. Je pense qu'elle peut quand même aussi s'inscrire un peu dans la durée, parce que elle fait que c'est pas Silverstone. Et je dirais que après le Hungaroring, on verra si McLaren s'est replacé dans le peloton et que ce peloton, c'est vrai, je trouve, se rapproche un petit peu de Red Bull. Maintenant, il se rapproche de Red Bull en copiant Red Bull, hein, de plus en plus. Donc, voilà, il restera toujours notre ami Adrian, le magicien, qui trouvera toujours la patte de lapin pour faire mieux que les autres. Hein. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus.
Et juste, parce que je ne sais pas si on reviendra sur Red Bull après, mais je sais pas si on reviendra sur Red Bull après et de Max, y compris que non. Mais vous avez entendu ce qu'a dit Max quand même. Il a dit un truc, vraiment, il a enfoncé son coéquipier. Hein. Il a dit, le championnat du monde des constructeurs cette année, je peux le gagner tout seul. Enfin, j'ai pas besoin de coéquipier. De quoi? De mon coéquipier. Ouais. C'est quand même très très dur.
Laurent, tu veux dire un petit mot sur McLaren ou tu veux enchaîner sur?
Deux choses. La première, c'est effectivement, je suis d'accord sur l'espoir. Hein. Surtout qu'on avait fait une émission où Eric nous avait dit c'est très très dur en milieu de saison de corriger le tir. Donc attention, il y a plein d'alignements. Silverstone est un circuit particulier. C'était le Grand Prix local pour McLaren. Donc il y a plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est que Piastri a démontré aussi, tu l'as dit, beaucoup de talent. Donc ça peut aussi.
À la Renault, ça.
Et ça fait mal à Renault parce qu'on n'a pas cité tout à l'heure, mais il y a aussi la fin de l'année dernière avec la perte d'Alonso, la perte, le fiasco de Piastri au mois de juillet, juillet, début août. Donc c'est il y a un an.
Alpine, hein.
Oui, c'est un pilote alpine. Donc ça peut jouer tout ça. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est tout ce qui s'est dit de la part autour de Red Bull est assez incroyable. On va parler du cas Checo, mais il y a aussi les annonces. Alain et Fabrice n'ont pas parlé. Adrian Newey a fait une modification des pontons de la, et donc on pense que ces sidepods pourraient faire gagner encore 2 dixièmes à Red Bull, ce qui là écraserait la concurrence terriblement. Hein.
Ouais, moi, ce qui me surprend, c'est les difficultés presque durant une saison et demie de toutes les écuries de progresser, à part peut-être Aston Martin qui avait créé la surprise en début d'année. Mercedes qui s'est enfin décidé à retirer ses pontons et on a vu le progrès, mais il y a des hauts et des bas. Bon, c'est vrai que sur la durée, on va voir, il a raison Alain de dire qu'on va voir ce que ça va donner sur des circuits différents, mais c'est quand même assez surprenant et ça fait plutôt plaisir pour McLaren. L'autre fait de ce Grand Prix, tu le disais Alain, tu le disais Fabrice, c'est les difficultés bien sûr de Checo Pérez, hein, le coéquipier de Max Verstappen qui a encore loupé ses qualifs, hein, et qui, même s'il a terminé la 6e place, c'était plutôt encore une fois un week-end cauchemar. La pression monte sur Pérez avec l'annonce de l'arrivée d'un pilote réserviste de l'écurie, hein, avec un certain potentiel et un certain Daniel Ricciardo. On en parle. Ricciardo, le retour déjà après 6 mois après son éviction de McLaren, le voilà donc de retour. Après des essais pneus menés la semaine dernière, Laurent, pour Red Bull, il aurait fait des temps fort honorables, d'après ce que disent les responsables de Red Bull.
Ouais, alors ce qu'on a appris, après c'est toujours la même chose, hein, tu l'apprends par ce que tu lis entre les lignes, ce qu'on a appris c'est qu'il aurait fait un temps qui le placerait en première ligne. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement il serait second, hein, puisque sinon tu aurais dit il aurait fait le meilleur temps. Après on ne sait pas la qualité des pneus, il peut aussi arriver que les pneus de la saison... Oui, mais ça peut être les pneus de la saison prochaine.
Ouais, mais pour quelqu'un qui a des difficultés, qui n'a pas roulé pendant... Même s'il a fait du simulateur, qui n'a pas roulé pendant 6 mois, c'est pas mal.
Ouais, après je pense qu'il a envie, hein. Il s'est dit c'est là ou jamais, quoi. C'était l'occasion de montrer.
Il a la meilleure voiture du plateau. Alors en préambule, donc, on l'a bien compris, ces essais un peu exceptionnels sembleraient encourager l'équipe Red Bull à le nommer chez AlphaTauri, à l'écurie sœur. Mais avant de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Ricciardo, un mot sur De Vries. C'est quand même dur, hein, pour De Vries de se retrouver comme ça à mi-saison, débarqué alors qu'il avait l'assurance qu'il devait finir la saison. Ça va être dur de rebondir, Laurent.
Je pense que ça va être dur de rebondir. Surtout, je pense que Lewis Hamilton a bien résumé la situation. Il a dit, c'est fait à la méthode Red Bull, quoi. Donc, en fait, De Vries est en train de vivre la méthode Red Bull. Ça s'est passé des dizaines de fois dans le passé, quoi.
Et là, c'est difficile de rétrograder ailleurs que de ne plus prendre le volant. Pourtant, c'était un garçon assez talentueux, Grand Prix de... Il n'est pas champion de GP2, c'est ça?
Non, il a tout gagné. Formule 3, Formule 2, il a été champion de Formule I. Donc non, le mec a un gros parcours, quoi.
Alors les amis du côté de Paris, est-ce que vous pensez que cette nomination est une bonne nouvelle pour Daniel Ricciardo d'arriver chez AlphaTauri, qui n'a pas le matériel de Red Bull? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle ou c'est plutôt un piège que tend Red Bull à son pilote historique?
Merci Olivier d'insister du côté de Paris. On voit, mais c'est toujours fait de façon très fine. Merci beaucoup Olivier. À nouveau, du côté de la Corse, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Mais au moins nous, on n'est pas éblouis. Voilà. Et il fait bon, hein, mais c'est plutôt agréable.
On a été sobre, on a vu sur la mer.
Nous avons une location sobre.
Du côté de Paris, sous la pluie, c'est ça que tu es en train de nous dire. Bon, ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que... Alors, c'est une vraie chance, à mon avis, pour lui de revenir aussi rapidement en Formule 1. Même si, quand on reprend les propos de Ricciardo, je rappelle qu'il est d'origine italienne, hein, et on ne dit pas Ricciardo. Donc,
Ricciardo.
Si on reprend ses propos d'il y a quelques mois, en fait, il souhaitait revenir dans une écurie de pointe, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque je crois qu'AlphaTauri est peut-être au dernier au classement. Toutefois, ça reste quand même...
Il a refusé un baquet chez As, apparemment, hein, c'est ça?
Il a refusé quoi? J'ai pas entendu.
Un baquet de chez As.
Ah. Voilà. En tout cas, une vraie chance de montrer son savoir-faire, de pouvoir peut-être escompter, si les 6 mois qui arrivent ou les 1 an et demi qui arrivent, de pouvoir peut-être aller chercher, de refaire ses preuves et d'aller chercher effectivement une écurie qui serait un peu plus dans le top 10 peut-être des circuits. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Je suis content de le voir parce que c'est quelqu'un qui avait plutôt... qui donnait envie de le regarder. Là, c'est quelqu'un de très souriant qui s'est peut-être pas suffisamment pris au sérieux ces 2 dernières années, parce que quand même son passage chez McLaren, ça a été une catastrophe. Et c'est vrai que l'image de sympathie qu'on avait de lui était ensuite plutôt une image de pitié, malheureusement pour lui. Donc je suis content de le voir revenir et un peu plus en forme, sûrement en tout cas, requinqué, on va dire, chez AlphaTauri.
Alain, en tout cas, c'est une manière, une stratégie habile de remonter un peu plus la pression sur Perez en disant, regarde, Ricardo, on l'a déjà embaqué, s'il fait des résultats et que tu ne bouges pas un petit peu, bah, tu risques de finir toi aussi chez AlphaTauri dans pas longtemps. Hein.
Oui, mais maintenant, pour reprendre Nyck de Vries, on ne peut pas dire non plus qu'il ait démontré grand-chose depuis le début de la saison. Hein, donc, après ça, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Helmut Marko et de notre ami Horner, on ne sait pas. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas des gens qui sont là pour stabiliser le mental des pilotes qui, dans leur tête, sont des numéro 2
par
rapport
peut-être.
À Max. Quoi. Ben ouais. Oui, voilà.
Ouais. Alors, mais justement,
c'est sûrement un coup. C'est un coup tactique, effectivement. C'est un coup à trois bandes. Quand même, ben oui, ça va permettre quand même déjà de connaître la vraie valeur de Yuki. Là, il va être comparé quand même à un pilote, a priori, quand même, qui a un peu plus d'expérience, peut-être dit comme plus talentueux, mais donc regardons ce que ça donne.
C'est Yuki Tsunoda, le pilote.
Oui, pardon. Oui, et la deuxième chose, c'est que bah, ça met une pression supplémentaire à Perez. Effectivement, c'est, bah, écoute, il y a un baquet dispo, peut-être, pour. Et donc, il prépare peut-être, effectivement, l'arrivée d'un Ricciardo.
Un retour de chez Red Bull. Alors, même Verstappen. Oui.
Même Verstappen est OK pour ça. Enfin,
Laurent, pour moi, il n'est pas OK pour ça. C'est juste une façon de mettre encore une taloche à Perez en disant « Moi, je n'ai jamais eu envie qu'il parte, j'aimais bien. » Non, tu le détestais, mais juste là, c'est une façon facile de mettre une derrière, hop, gratuit, quoi.
Plus ils peuvent démolir Tcheco, mieux c'est. Enfin, dans leur esprit. Hein. Donc, voilà, c'est un peu tristoun hein, comme mentalité maintenant. Quand on a des champions comme ça, c'est jamais simple. Hein. On ne peut pas dire que notre ami Schum était si sympa que ça avec ses coéquipiers. Donc,
c'est moins qu'on puisse dire.
Et à partir de là, le top de l'écurie rejoint son pilote phare. Et c'est clair que Todd et Ross Brawn allaient un peu dans ce sens-là aussi. Hein. Ça a laminé les. Ouais, ouais.
Tiens, Olivier, tu l'as peut-être mis dans ton quiz, hein, mais AlphaTauri, c'était quand même avant Toro Rosso, et c'est là où a démarré quand même Ricciardo. Hein.
Exactement.
Non bon, ouais, tu peux me compter comme un point, s'il te plaît, même si tu l'as. Je ne sais pas si tu l'avais mis, mais ça.
On verra ça. C'est dans un moment plaisir. Le quiz F1, c'est dans 2-3 minutes. En tout cas, c'est pas une Red Bull. On sait que la voiture souffre.
Non.
Et on sait qu'il aime bien des voitures à son goût. On n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé durant ces 2-3 années chez McLaren. Comment d'un pilote si freintard et si à l'aise et si spectaculaire. Moi, j'adorais Ricciardo. J'adore toujours, d'ailleurs, Ricciardo. Après, il y a l'environnement. Mais quand on a connu la pression chez Red Bull de s'écrouler autant comme ça chez McLaren, je n'ai toujours pas compris. Alors, c'est important qu'il y ait une voiture qui soit vraiment typée. Espérons que chez AlphaTauri, il y ait une voiture qui lui convienne. J'en doute un petit peu et espérons que ce ne soit pas... un piège, parce que véritablement, s'il végète comme végètent les autres pilotes AlphaTauri, ça n'a pas vraiment redoré son blason. J'espère que dès ce Grand Prix, il nous prouvera le contraire. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce pilote, c'est l'été et c'est l'heure de la Silly Season déjà. La trêve estivale n'est pas encore arrivée pour les pilotes de F1. Nous, c'est maintenant et on en prend beaucoup de plaisir. Mais la Silly Season a déjà débuté avec plein de rumeurs autour de l'avenir de grands noms de la Formule 1, notamment Charles Leclerc, qui est en fin de contrat jusqu'à fin 2024, Laurent, qui est annoncé un peu partout, Laurent. C'est simple.
Je pense qu'il est annoncé dans quasiment toutes les écuries, quoi. On en a parlé chez Mercedes, on en a parlé chez Aston, on en a parlé on a une news sur
Red Bull.
Donc en fait partout quoi. C'est le pilote que tout le monde veut. Moi j'espère pour lui qu'il va rester chez Ferrari, que Ferrari va aller mieux parce que je pense que c'est son écurie de cœur. Donc ça serait dommage que ce mec réussisse ailleurs que dans son écurie de cœur. Tu vois, même s'il fallait que Ferrari réussisse, tu vois, voilà.
Les amis, les tifosi, qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur qui veut que Leclerc partirait ?
C'est beau ce que tu dis, Laurent. Hein. C'est très beau.
Tu rajoutes là,
La mer te rend poétique, j'aime bien.
Alors, Laurent, sais que pourquoi tu dis ça, parce qu'en en fait, il y a des rumeurs de prêt de Leclerc chez Mercedes en échange d'un Hamilton chez Ferrari. C'est pour ça que tu dis ça. Mais je suis non, d'accord avec toi.
Non, je suis sincère. Non, je suis sincère. Je pense que quand tu vois des interviews de Leclerc jeune, tu vois que quand il parle de Ferrari, il a les yeux qui brillent.
Il a fait la Ferrari Academy.
Oui, mais tu sens qu'il y a une vraie, il y a un vrai lien entre. Voilà. Ouais, il y a un vrai lien. Donc je trouve ça.
Il y a un lien avec Fred Vasseur aussi, donc ça se justifie. Il y a une autre surprise. Tu m'as envoyé un SMS. C'était tout excité, mon cher Fabrice. C'est la rumeur de l'arrivée de Norris chez Ferrari qui aurait signé un pré-contrat. Ouais. Tu as lu ça où ?
Alors, j'ai lu ça où ? J'ai lu ça sur des forums de tifosi italiens. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut y accorder beaucoup d'importance. Ouais. toutefois, ouais, il y a eu cette rumeur-là d'un pré-contrat qui aurait été signé pour 2025, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si ça a été repris d'ailleurs par les médias français.
Non. Il y a eu plein de breaking news qui étaient des fake news cette semaine autour de Leclerc. Donc quoi, il y a avec des faux comptes F1 qui annonçaient que Leclerc avait re-signé chez Ferrari, ce qui semble logique, mais c'est du fake. Que Norris aurait fait le pré-contrat. Enfin bon, il y a énormément de rumeurs. La seule chose à peu près sûre pour Ferrari, c'est qu'a priori, Eric nous l'a déjà dit dans cette émission, Sainz n'est plus tellement en odeur de sainteté, on le voit. Hein, il est clairement numéro 2 et il mettrait le cap sur Audi l'année prochaine. Et puis la vraie inconnue, c'est Hamilton, qui n'est toujours pas signé chez Mercedes.
Pas l'année prochaine, hein, 2026 pour Sainz. C'est pour ça qu'il y a un trou au milieu.
2025.
Hein. 25, il y a un trou quand même. Hein, tu vois,
Hamilton, c'est à la fin de la saison. Là.
Et c'est toujours pas annoncé. Et, écoute, on rentre dans la silly season, donc il va se passer des choses. Hein.
Voilà, la chose est sûre qu'on est sûr pour l'année prochaine, c'est que Lance Stroll sera encore chez Aston Martin. Voilà. Allez, on a scène assez débattue, place au quiz F1. Le quiz est fin, vous en avez l'habitude maintenant. 4 questions, une réponse. Dès la première, vous rapporte 4 points. 3 points pour la seconde, 2 points pour la dernière question. Et 1 point si vous attendez la dernière réponse. Si vous répondez et que la réponse est fausse, vous êtes éliminé pour la question. Vous êtes prêts, messieurs ? Allez, on lance la starting grid, la procédure de départ. Un pilote. Attention messieurs, je compte sur la régie pour me compter les points. Son prénom est le même que celui de l'un des apôtres les plus célèbres. Son prénom est le même que l'un des apôtres les plus célèbres.
Jean, allez-y.
Non. Bien joué, c'est bien vu, Saint-Jean. Mais c'est pas Sam. Donc Camille. En 2016, il a été sacré champion de la série GP2, l'antichambre de la Formule 1. Son prénom est le même que celui d'un des plus apôtres les plus célèbres. En 2016.
Pierre Gasly,
bravo, magnifique. Pierre Gasly, effectivement.
Et c'est mon premier point.
Donc ça te fait 3 points.
Combien ? 3 points. Merci.
Après son passage chez Red Bull, il a rejoint l'équipe AlphaTauri et il a remporté effectivement sa première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix d'Italie en 2020. Attention messieurs, un patron d'écurie. Il est fondateur d'une écurie de Formule 1 dont il porte son nom, ou il a porté son nom parce qu'aujourd'hui elle n'existe plus.
Brabham.
Non. Il prend des risques, c'est bien, c'est courageux, je suis fier de toi.
Alors. Tyrell.
Non. En 1998, il ne reste plus que Fabrice. L'un de ses pilotes de son équipe a remporté le Grand Prix de Belgique en 98, marquant la première victoire de l'équipe en Formule 1. 98 sur la pluie.
Alors attends, ça.
Et en fait, il cherche les réponses sur Internet.
Alors attends.
C'est comme ça qu'il a trouvé la réponse tout à l'heure.
Attention.
Merci ChatGPT quand même.
Yellow flag, ça va pas du tout ça.
Yellow flag. Comme quoi, je suis honnête, hein.
On le savait déjà pour celle d'avant, hein.
Cette personnalité est originaire d'Irlande. Facile.
Jordan. J'ai mon ChatGPT à côté de moi.
Après avoir quitté la F1, il a travaillé comme commentateur sportif pour la BBC et aujourd'hui, Channel 4. Question suivante, encore un pilote. Il détient le record du plus jeune pilote à avoir jamais remporté un Grand Prix de Formule 1. Facile, franchement.
Max Verstappen ?
Non.
Plus jeune pilote ? Ça avait été Alonso à l'époque, mais je pense que ça a été battu.
Je me demande s'il n'y a pas une erreur derrière. Je pense que c'est pas Max qui s'appelle. C'est pas lui qu'on voit qu'il en pense.
Et c'est Max le plus jeune, non ?
Alors, j'avance. Il est l'un des rares pilotes de Formule 1 à avoir remporté 4 championnat du monde.
4, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Alain Prost, il y a Nelson Piquet.
Piquet 3.
Piquet 3
ouais.
Non, 4.
4.
Et non, 4, 4. Sur la photo, il y a Nelson Piquet, bah, Alain Prost.
C'est Alain Prost, non? Alain Prost, il y en a
gagné
combien?
Non, il détient le record du plus jeune pilote, non?
Ah, plus jeune pilote.
Il a commencé sa carrière chez Red Bull.
Vettel.
Eh oui,
ah, Vettel.
Je ne demande pas s'il y a une erreur avec effectivement la première information.
Ah, mais ouais, Max, ouais. Ouais.
Mais
donc là, Laurent et moi, on prend le point.
Non, parce que juste, ouais. Parce que ouais, les questions, vrai, elles viennent vrai, d'où, là au moins,
c'est de ChatGPT.
On est d'accord, Laurent hein.
Ouais, ouais.
Alors, ça fait alors, 3...
On prend le point tous les deux, là.
3, non, il pourrait être 4 points tous les deux.
Ah, non, non, j'ai dit Vettel, moi. J'ai dit Vettel.
Laurent, 4 et...
Non, ouais, 3, ah, bah, non, 3 égalités.
C'est Max.
Un pilote.
C'est Max.
Ah oui.
Un pilote australien. Un pilote australien qui a commencé sa carrière dans l'écurie HRT.
HRT qui s'appelait HRT à l'époque.
Ouais. Bah aujourd'hui, il est plus petit.
Un pilote australien.
Oui, le manager de Piastri. Comment il s'appelle?
Je ne dis rien.
Comment il s'appelle?
J'enchaîne. Ah bah attendez, il faut trouver. Hein.
Ah ouais.
Trouver, cher ami. Il a un sourire appelé le dingo. Sourire appelé le dingo.
Ça va donner le point.
J'ai piloté pour Red Bull.
Mais oui, je t'ai dit.
Mais non.
Mais oui, mais oui.
Mais non. Il a célébré pour ses victoires par sur le podium par une formule dite le showy, où il boit du champagne dans sa chaussure.
Ah, Ricardo.
Eh oui, Daniel Ricciardo.
Ouais, j'étais plus très sûr là. Bon, ok.
Donc,
il a commencé chez HRT.
Eh ben ouais.
Moi je pensais que c'était Toro Rosso son départ.
Je crois qu'il a commencé chez HRT. En tout cas, si c'est une erreur, c'est celle de la personne qui est derrière l'image là-bas. Je ne peux pas la dénoncer. Bon, derrière, c'est
en tout cas, ouais, parce que quand tu demandes, il n'y a pas. Il n'y a aucun pilote qui a commencé chez. J'ai demandé. Hein.
Alors celle-là, on est bon. Attention, c'est,
ah, ouais, d'accord, ouais,
c'est du sur-mesure, messieurs, pour les Ferrari. J'ai travaillé comme assistant de Enzo Ferrari dans les années 70.
Mauro Forghieri.
Non. J'ai été président.
Luca Di Montezemolo.
Luca Di Montezemolo, magnifique, il prend la part.
Il était carrément patron de l'écurie, arrête.
Attends, je commence à
commencer comme assistant.
J'ai été président.
Il a commencé comme assistant.
Ouais, ouais. Ah, il a commencé en plus bas de l'échelle.
Qui est champion en quelle année?
J'ai été président du comité d'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 90 en Italie. J'ai été président du MEDEF italien. Sous sa présidence de Ferrari, Ferrari a remporté 8 titres de constructeurs et 6 titres de pilote de F1. On y va, mais il faut pas les trop.
Non, mais moi j'ai l'impression, l'impression que cette fois-ci,
ouais,
votre quiz a été rédigé au bord de la piscine hier soir. Et c'est du grand n'importe quoi.
Non, la bonne nouvelle, c'est qu'en l'absence, la bonne nouvelle, l'unique nouvelle, c'est qu'en l'absence de Monsieur Pommier qui gagne à chaque fois, j'ai pu gagner.
Non, c'est pas fini. Il reste.
Il reste quoi?
Il reste une question. C'est un dirigeant d'écurie. Avant de rejoindre le monde de la Formule 1, il a travaillé pour Google et d'autres entreprises de technologie.
Laurent Rossi.
Bravo.
Et non, il ne dirigeait pas l'équipe de Formule 1.
Avant
c'est faux encore.
Rossi a été chez Google, on est d'accord, mais Laurent Rossi ne dirigeait pas l'équipe de Formule 1.
Oui, mais qu'est-ce qu'on vient de dire pendant 10 minutes?
Moi, je dirais que c'est... Ouais.
Mais si c'est lui, c'est du grand n'importe quoi. Parce que je dis, non mais là vous avez rédigé la question au bord de la piscine.
Là c'est moins 4 pour celui qui a répondu.
Non, Yellow flag.
Il était là en plus.
Yellow flag.
Au bord de la piscine.
Sous sa direction.
Et comme par hasard, cette fois-ci Laurent il gagne, tu vois.
Non.
Au bord de la piscine tous les deux hier soir.
C'est une question.
Sous sa direction. Son écurie a remporté son premier Grand Prix en Formule 1 au Grand Prix de Hongrie en 2001. Made in Corsica, il a pris la direction d'une célèbre équipe française de Formule 1 en 2021, Laurent Rossi bien sûr. Allez, on enchaîne avec vos pronos du Grand Prix de Hongrie.
Ouais, c'était du grand n'importe quoi là.
Ouais.
Le Grand Prix de Hongrie, on va commencer avec Laurent. Tes pronostics.
Le premier c'est compliqué. Hein.
Non, le premier c'est compliqué, c'est-à-dire Verstappen ou Verstappen?
Il n'y a pas d'enjeu.
C'est Verstappen ou c'est Max?
Eh ben, tu sais quoi, moi je vais prendre des risques. Je vais dire qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'il se sorte, qu'il fasse un carton ou un truc comme ça. Donc je vais dire Lando, Hamilton, Leclerc. Okay. C'est osé, mais bon, je me dis, sinon, c'est toujours Max qui va gagner. Donc,
heureusement que tu n'as pas dit Yuki.
Il a
copié
sur moi. Ouais. Fabrice.
Oui, moi aussi, ça va être osé, mais je me dis qu'un jour, ça va bien arriver. Donc, Leclerc en 1, Max en 2, Norris en 3.
Bravo.
Max en 2, ok.
Leclerc apparaît partout. Donc, Max en 1, Charles en 2. Max en 1, Charles en 2. Et puis, Hungaroring, une Renault. Pierre, Gasly.
Ouais, puisqu'ils ont gagné il y a deux ans oui. avec Esteban Ocon. Donc, puisqu'il m'a volé mon prono, je vais donc changer mon fusil d'épaule. Et je vais donc remettre Verstappen en premier. Deuxième, Norris. Troisième, Alonso.
Oh, non.
Oh. Mais si.
Comme c'est voilà. Mignon.
Merci, bravo. Messieurs, d'avoir participé à ce Refait la F1. On vous envoie plein de soleil, plein de chaleur, plein de fraîcheur aussi. Puisqu'on va se rafraîchir dans pas longtemps, croyez-moi. Alors, allez, venez nous rejoindre avec Air Corsica. Vous êtes à 1h30 de Paris.
Bravo. Et on vous réserve le prochain. SAS Radisson.
Alors, n'hésite pas à laisser mon numéro à Air Corsica sans problème.
Oh là là.
Voilà. Alors, on remercie encore une fois toutes les équipes d'Air Corsica. On pense à.
Ouais. On les remercie beaucoup, nous aussi.
À Michel Pontevet, on pense à Mélanie, on pense à Anne-Laure, on pense ici à Radisson Blois, toutes les équipes de Londini.
Aldo.
Londini.
Mais oui. On pense à vous, nous aussi.
On pense à vous.
Voilà. Et à Nelly également.
Et à nos amis de chez Eternel,
bien sûr, qui sponsorent cette émission. Merci également aux équipes de Bureau Plus, Espace Micro, ici à Ajaccio. Et puis un grand merci à vous. Merci pour votre fidélité. On prend beaucoup de plaisir à faire cette émission. On se donne rendez-vous après la trêve. Nous, on coupe là, on a besoin d'un petit peu de repos. Croyez-moi, l'année
oui,
a été
ça, alors là, je te le fais pas dire.
On refait le Mac et on refait la tech. Allez voir, on refait le Mac. On va parler pas mal d'accessoires tech également. On se donne rendez-vous fin août pour le Grand Prix de Belgique, c'est ça, normalement, si je ne me trompe pas.
De Hollande. Mais ça ne va pas du tout. Hein. Oh là,
ouais, je suis déjà en vacances.
Et c'est pas de l'orette, ça, que tu as bu. Hein.
Non. C'est pas de l'orette. L'eau minérale naturelle et pétillante de notre beau pays. Bon. On vous donne rendez-vous.
Et comme on dit en Corse, Forza Ferrari.
Et pace salute aussi. À bientôt.
Pace salute. Allez, ciao.
Ciao.